Maupassant, le garde. On racontait des aventures et des accidents de chasse après dîner. Un vieil ami de nous tous, M. Boniface, grand tueur de bêtes et grand buveur de vin, un homme robuste et gai, plein d'esprit, de sens et de philosophie, d'une philosophie ironique et résignée, se manifestant par des drôleries mordantes et jamais par des tristesses, dit tout à coup « Mais alors c'est un, moi, une histoire de chasse, ou plutôt un drame de chasse assez singulier. Il ne ressemble pas du tout à ce qu'on se reconnaît dans le genre. Aussi je ne l'ai jamais raconté, pensant qu'il n'amuserait personne. Il n'est pas sympathique, vous me comprenez. Alors, je veux dire qu'il n'a pas cette espèce d'intérêt qui passionne ou qui charme ou qui émeut agréablement. » Enfin, voici la chose. J'avais alors 35 ans environ et je chassais comme un furieux. En ce temps-là, je possédais une terre très isolée dans les environs de Jumièges, entourée de forêts très bonnes pour le lièvre et le lapin. J'y allais passer tout seul 4 ou 5 jours par an seulement, l'installation ne me permettant pas d'amener un ami. J'avais placé là comme garde un ancien gendarme en retraite, un brave homme, violent, sévère sur la consigne, terrible au braconnier et ne craignant rien. Il habitait tout seul, loin du village, une petite maison, ou plutôt une masure, composée de deux pièces en bas, cuisine et cellier, et de deux chambres en premier. Une d'elles, une sorte de cave juste assez grande pour un lit, une armoire et une chaise, m'étaient réservées. Le père Cavalier occupait l'autre. En disant qu'il était seul en ce logis, je me suis mal exprimé. Il avait pris avec lui son neveu, une sorte de chelapan de 14 ans, qui allait aux provisions du village, éloigné de 3 kilomètres, et aidait le vieux dans les besognes quotidiennes. Ce garnement, maigre, long, un peu crochu, avait des cheveux jaunes et si légers, et qui semblaient en duvet de poule plumée, si rares qu'ils avaient l'air chauves. Ils possédaient en outre des pieds énormes et des mains géantes, des mains de colosse. Ils louchaient un peu et ne regardaient jamais personne. Dans la race humaine, ils me faisaient l'effet de ce que sont les bêtes puantes chez les animaux. C'était un putois ou un renard, ce galopin-là. Il couchait dans une sorte de trou au haut du petit escalier qui menait aux deux chambres. Mais pendant mes courts séjours au pavillon, j'appelais cette masure le pavillon, Marius cédait sa niche à une vieille femme d'Écorcheville nommée Céleste, qui venait me faire la cuisine, les ratas du père Cavalier étant par trop insuffisants. Vous connaissez donc les personnages et le local. Bien voici maintenant l'aventure. C'était en 1854, le 15 octobre. Oh, je me rappelle cette date et je ne l'oublierai jamais. Je partis de Rouen à cheval, suivi de mon chien Boc, un grand braque du Poitou, large de poitrine et fort de gueule, qui buissonnait dans les ronces comme un épagnol de ponteau de mer. Je partais en croupe, mon sac de voyage et mon fusil en bandoulière. C'était un jour froid, un jour de grand vent triste, avec des nuages sombres courant dans le ciel. En montant la côte de Canteleu, je regardais la vaste vallée de la Seine que le fleuve traversait jusqu'à l'horizon avec des replis de serpents. Rouen, à gauche, dressait dans le ciel tous ses clochers, et à droite, la vue s'arrêtait sur les côtes lointaines, couvertes de bois. Puis je traversais la forêt de Roumare, allant tantôt au pas, tantôt au trot, et j'arrivais vers 5 heures devant le pavillon où le père Cavalier Céleste m'attendait. Depuis 10 ans, à la même époque, je me présentais de la même façon et les mêmes bouches me saluaient avec les mêmes paroles. « Bonjour, notre monsieur. La santé est-elle satisfaisante ?» Cavalier n'avait guère changé. Il résistait autant comme un vieil arbre. Mais Céleste, depuis 4 ans surtout, était devenue méconnaissable. Elle s'était à peu près cassée en deux. Et bien que toujours active, Elle marchait le haut du corps tellement penché en avant qu'il formait presque un angle droit avec les jambes. La vieille femme, très dévouée, paraissait toujours émue en me revoyant. Elle me disait à chaque départ « Faut penser que c'est peut-être la dernière fois, notre cher monsieur. » Et l'adieu, désolé, craintif de cette pauvre servante, cette résignation désespérée devant l'inévitable mort sûrement prochaine pour elle, me remuait le cœur chaque année d'une étrange façon. Je descendis donc de cheval, et pendant que cavalier dont j'avais serré la main menait ma bête au petit bâtiment qui servait d'écurie, j'entrai, suivi de Céleste, dans la cuisine, qui servait aussi de salle à manger. Puis le garde nous rejoignit, et je vis du premier coup qu'il n'avait pas sa figure ordinaire. Il semblait préoccupé, mal à l'aise, inquiet. Je lui dis « Eh bien, cavalier, tout marche-t-il selon votre désir ?» Il murmura « Il y a du oui et il y a du non. Il y a bien de quoi qui ne va guère. » Je demandai « Mais qu'est-ce que c'est donc, mon brave, contez-moi ça. » Mais il hochait la tête. « Non, pas encore, monsieur. Je ne veux point vous éluger comme ça à l'arrivée, avec mes tracasseries. » J'insistais, mais il refusa absolument de me mettre au courant avant le dîner. À sa tête, cependant, je comprenais que c'était grave. Ne sachant plus quoi lui dire, je prononçai « Et ce gibier, en avons-nous ?»« Oh, bon du gibier, oui, il y en a, il y en a. Vous en trouverez à volonté. Grâce à Dieu, j'ai eu l'œil. » Et il disait cela avec tant de gravité, avec une gravité si désolée, qu'elle devenait comique. Ses grosses moustaches grises avaient l'air prêtes à tomber de ses lèvres. Tout à coup, je m'avisai que je n'avais pas encore vu son neveu. « Et Marius, où est-il donc? Pourquoi ne se montre-t-il pas ?» Le garde eut une sorte de sursaut. Et me regardant brusquement en face, « Eh bien, monsieur, j'aime mieux vous dire les choses tout de suite. Oui, j'aime mieux. C'est rapport à lui que j'en ai sur le cœur. » « Ah, eh bien, où est-il donc ?»« Il est dans l'écurie, monsieur. J'attendais le moment pour qu'il paraisse. »« Et qu'est-ce qu'il a donc fait ?»« Voilà la chose, monsieur. » Le garde hésitait, cependant, la voix changée, tremblante, la figure creusée, soudain par des rides profondes, des rides de vieux. Et il reprit lentement. « Voilà !» J'ai bien vu cet hiver qu'on colletait dans le bois des roseraies, mais je pouvais pas pincer l'homme. J'y passais des nuits, monsieur, encore des nuits, rien. Et pendant ce temps-là, on se mit à colleter du côté des Corcheville, mais j'en maigrissais de dépit. Mais quant à prendre le maraudeur, impossible, on aurait dit qu'il était prévenu de mes marches, le gueux et de mes projets. Et voilà qu'un jour, en brossant la culotte à Marius, sa culotte des dimanches, je trouvai 40 sous dans sa poche. Où est-ce qu'il avait eu ça, le gars ? J'y réfléchis bien 8 jours, et je vis qu'il sortait. Il sortait juste quand je rentrais au repos, oui, monsieur. Alors je le guette, mais sans doutance de la chose, eh oui, sans doutance. Et comme je venais de me coucher devant lui un matin, je me relevai incontinent et je le suivis. Pour suivre, il n'y en a pas un comme moi, monsieur. Et voilà que je le pris, oui, Marius, qui coltait sur vos terres, monsieur. Lui, mon neveu, moi, votre garde. Oh, le sang m'en a fait qu'un tour et j'ai failli le tuer sur place, tant j'ai tapé. « Oh oui, je l'ai tapé, allez, et je lui ai promis que quand vous seriez là, il en aurait une encore en votre présence de correction, de ma main, pour l'exemple. » Et voilà, j'en ai maigri de chagrin. Vous savez ce que c'est, quand on est contrarié comme ça? Mais qu'est-ce que vous auriez fait, dites? Il n'a plus ni père, ni mère, ce gars, il n'a plus que moi que ce sang. Je l'ai gardé, je pouvais pas le chasser, n'est-ce pas? Ben, je lui ai dit que s'il recommence, c'est fini, fini, plus de pitié. Voilà. Est-ce que j'ai bien fait, monsieur? Je répondis en lui tendant la main. Vous avez bien fait, cavalier, vous êtes un brave homme. Il se leva. Merci bien, monsieur. Maintenant, je vais le quérir. Il faut la correction, pour exemple. Je savais qu'il était inutile d'essayer de dissuader le vieux d'un projet. Je le laissai donc agir à sa guise. Il alla chercher le galopin et le ramena en le tenant par l'oreille. J'étais assis sur une chaise de paille avec le visage grave d'un juge. Marius me parut grandi, encore plus laid que l'autre année, avec son air mauvais, sournois, et ses grandes mains semblaient monstrueuses. Son oncle le poussa devant moi et de sa voix militaire: « Demande pardon au monsieur propriétaire. » Le gars ne dit point un mot. Alors, l'ayant saisi sous les bras, l'ancien gendarme le souleva de terre. Il se mit à le fesser avec une telle violence que je me levai pour arrêter les coups. L'enfant maintenant hurlait: « Grâce, 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 je promets !» Cavalier le reposa sur le sol et le forçant par une pesée sur les épaules à se mettre à genoux. « Demande pardon, dit-il. Le garnement murmurait, les yeux baissés: « Je demande pardon. » Alors son oncle le releva et le congédia d'une gifle qui faillit encore le culbuter. Il se sauva, je ne le revis pas de la soirée. Mes cavaliers paraissaient atterrés. C'est une mauvaise nature, dit-il. Et pendant tout le dîner, il répétait: Oh, ça me fait deuil, monsieur. Vous savez pas comme ça me fait deuil. J'essayais de le consoler, mais en vain. Et je me couchais de bonne heure pour me mettre en chasse au point du jour. Mon chien dormait déjà sur le plancher au pied de mon lit quand je soufflais ma chandelle. Je fus réveillé vers le milieu de la nuit par les aboiements furieux de Bock, et je m'aperçus aussitôt que ma chambre était pleine de fumée. Je sautai de ma couche, j'allumai ma lumière, je courus à la porte et je l'ouvris. Un tourbillon de flammes entra, la maison brûlait. Je refermai bien vite le bâton de gros chêne. Ayant passé ma culotte, je descendis d'abord par la fenêtre mon chien au moyen d'une corde faite avec mes draps roulés. Puis, en jeté dehors mes vêtements, ma carnassière et mon fusil, je m'échappai à mon tour par le même moyen. Et je me mis à crier de toutes mes forces: « Cavalier! 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 » Mais le garde ne s'est réveillé point. Il avait un dur sommeil de vieux gendarme. Cependant, par les fenêtres d'en bas, je voyais que tout le rez-de-chaussée n'était plus qu'une fournaise ardente, et je m'aperçus qu'on l'avait remplie de paille pour favoriser l'incendie. Donc on avait mis le feu. Je recommençai à crier avec fureur: « Cavalier !» Alors la pensée me vint que la fumée l'asphyxiait. J'eus une inspiration et, glissant deux cartouches dans mon fusil, je tirai un coup en plein dans sa fenêtre. Les cigares jaillirent dans la chambre en poussière de verre. Cette fois, le vieux avait entendu. Et il apparut effaré, en chemise, affolé surtout par cette lueur qui éclairait violemment tout le devant de sa demeure. Je lui criai: « Votre maison brûle! Sautez par la fenêtre, vite, vite !» Les flammes, sortant brusquement par des ouvertures d'en bas, léchaient le mur, arrivaient à lui, allaient l'enfermer. Il sauta et tomba sur ses pieds comme un chat. Il était temps. Le toit de chaume craqua par le milieu, au-dessus de l'escalier qui formait en quelque sorte une cheminée au feu d'en bas, et une immense gerbe rouge s'éleva dans l'air, s'élargissant comme un panache de jets d'eau et ressemant une pluie d'étincelles autour de la chaumière. Et en quelques secondes, elle ne fut plus qu'un paquet de flammes. Cavalier, atterré, demanda: « Mais comment que ça a pris? » Je répondis: « Ben, on a mis le feu dans la cuisine. Il murmura, « Mais qui a pu mettre le feu ?» Et moi, devinant tout à coup, je prononçai « Marius ?» Et le vieux comprit. Il balbutia, « Oh, Jésus-Marie, c'est pour ça qu'il n'est pas rentré !» Mais une pensée horrible me traversa l'esprit. Je criai, « Et Céleste ? Céleste ?» Il ne répondit pas, lui. Mais la maison s'écroula devant nous, ne formant déjà plus qu'un épais brasier, éclatant, aveuglant, sanglant, un bûcher formidable, où la pauvre femme ne devait plus être elle-même qu'un charbon rouge, charbon de chair humaine. Nous n'avions point entendu un seul cri. Mais comme le feu gagnait le hangar voisin, je songeais tout à coup, « Mon cheval !» Les cavaliers courut le délivrer. À peine eut-il ouvert la porte de l'écurie, qu'un corps souple et rapide, lui passant entre les jambes, le précipita sur le nez. C'était Marius, fuyant de toutes ses forces. L'homme, en une seconde, se releva. Il voulut courir pour rattraper le misérable, mais, comprenant qu'il n'y parviendrait point, et affolé par une irrésistible fureur, cédant à un de ces mouvements irréfléchis, instantanés, qu'on ne saurait ni prévoir ni retenir, il saisit mon fusil resté par terre, tout près de lui, épaula, et avant que j'eusse pu faire un mouvement, il tira, sans savoir même si l'arme était chargée. Une des cartouches que j'avais mise dedans pour annoncer le feu n'étant point partie, et la charge atteignant le fuyard en plein dos, le jeta sur la face couvert de sang. Il se mit aussitôt à gratter la terre de ses mains et de ses genoux, comme s'il eût voulu encore courir à quatre pattes, à la façon des lièvres blessés à mort, qui voient venir le chasseur. Je m'élançai, l'enfant râlait déjà. Il expira avant que fût éteinte la maison, sans avoir prononcé un mot. Cavalier, toujours en chemise, les jambes nues, restait debout près de nous, immobile, hébété. Quand les gens du village arrivèrent, on emporta mon garde, pareil à un fou. Je parus au procès comme témoin, et je raconte les faits par le détail, sans rien changer. Cavalier fut acquitté. Mais il disparut le jour même, abandonnant le pays. Je ne l'ai jamais revu. Voilà, messieurs, mon histoire de chasse. 8 octobre 1884.